France Inter.
Vous écoutez France Inter, nous sommes le vendredi 25 avril et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 9h. Au programme du 5-6 ce matin, un souffle d'air très frais pour se réveiller. Portrait d'un féru de l'Antarctique dans les chroniques littorales. Des vitamines aussi au saut du lit. Notre invité, déjà debout à 6h moins le quart, est un producteur de fraises et de kiwis. Et puis du rap français pour se déhancher au saut du lit. Le phénomène Jul est en concert demain. Il sera aussi dans la playlist de France Inter ce matin. On comptera aussi à l'ancienne, question sur les chiffres romains dans les petits bateaux, et il sera question de la trahison et de ses aspects parfois positifs, mais oui, dans le café philo juste avant 6h. Allez, on voit la vie du bon côté, vous avez le programme du 5-6, c'est parti.
France Inter.
Et on démarre avec un premier journal et c'est avec vous Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
L'émotion à Nantes après l'attaque au couteau dans un lycée hier.
Un élève de seconde a poignardé 4 de ses camarades avant d'être maîtrisé par le corps enseignant et interpellé. Une lycéenne est morte, 3 autres élèves sont blessés. Le principal suspect, décrit comme dépressif par ses camarades, a envoyé un long document de 13 pages par mail à tout le lycée. Avant son passage à l'acte, il y décrit sa vision sombre de la société, un mail qu'a reçu Tom, élève de terminale au lycée Notre-Dame de Toute Zède.
Il nous a envoyé un mail groupé à tout le collège et lycée réunis. Et dans ce mail, qui est assez incompréhensible, on voit un document de 13 pages où il nous parle de mondialisation, d'agression dans la mondialisation. Donc c'est assez incompréhensible. Et puis moi, j'ai pu parler avec 2 élèves qui étaient dans sa classe. Et apparemment, c'est un élève qui était assez bizarre depuis le début de l'année. Il aurait évoqué notamment du nazisme, etc. On ne comprend pas trop. Donc si on est tous un peu choqués, on a vu plein de personnes pleurer, etc. Voilà, c'était plein d'élèves de seconde. Et savoir que ça se passe dans notre lycée, c'est sûr que c'est impressionnant.
Le témoignage de Tom, lycéen, au micro d'Anne Bertrand, ici Loire-Océan, ex-France Bleu. Le principal suspect a été placé en hôpital psychiatrique hier soir. Selon un psychiatre, son état de santé ne lui permettait pas d'être entendu sous le régime de la garde à vue. Après ce drame, le Premier ministre en appelle à un sursaut collectif. François Bayrou veut davantage de contrôle aux abords des écoles. Il évoque notamment l'installation de portiques à l'entrée des établissements scolaires pour éviter de nouvelles attaques au couteau. La mort sur les pistes d'une jeune espoir du ski français. Margot Simon, la championne de France de slalom junior, a été victime d'une chute hier. Elle s'entraînait à Val d'Isère, en Savoie. La skieuse de 18 ans n'a pas pu être ranimée malgré l'intervention d'un médecin urgentiste.
Et la balle est dans le camp de la Russie, fermez les guillemets.
Déclaration hier soir du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Il estime que c'est à Moscou et non à Kiev de faire avancer les négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le chef de la diplomatie russe lui répond ce matin. Sergueï Lavrov dit que la Russie est prête à conclure un accord. Certains détails doivent toutefois être peaufinés, précise-t-il, au moment où les pourparlers entrepris par Donald Trump se crispent autour de la question de la Crimée. Le président américain qui sera à Rome pour les funérailles du pape samedi. Hier encore, des milliers de fidèles ont fait des heures de queue place Saint-Pierre pour apercevoir la dépouille du pape défunt. Plus de 90 000 personnes ont déjà rendu un dernier hommage au souverain pontife. Demain, les obsèques prendront une tournure inédite avec le transfert du cercueil de la basilique Saint-Pierre à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus, en plus des chefs d'État et têtes couronnées du monde entier, Mathilde Imberti.
Près de 4 km séparent la basilique Saint-Pierre où le cercueil de François sera fermé ce soir à 20h et la basilique Sainte-Marie-Majeure où il sera enterré demain. Ce parcours, c'est la partie la plus délicate des funérailles, reconnaissent les autorités. Le convoi va traverser le Tibre, le centre historique, puis remonter les forums antiques romains avant de bifurquer vers le quartier de la gare centrale. Un transfert en voiture à vitesse très lente pour que les fidèles puissent le saluer une dernière fois tout au long du parcours, derrière des barrières et sous protection des forces de l'ordre. Sur les marches de Sainte-Marie majeur. C'est un groupe de sans-abri et de migrants qui accueillera le pape tenant à la main une rose blanche. La tombe est prête, nef latéral gauche de la majestueuse basilique, en marbre avec une simple inscription, Franciscus, son nom latin. L'inhumation ne sera pas retransmise, elle se déroulera dans l'intimité, contrairement aux funérailles officielles qui démarraient à 10h à la basilique Saint-Pierre demain, en présence de 50 chefs d'État et 10 souverains, 130 délégations étrangères au total. Donald Trump débarque à Rome ce soir vers 23h à bord du Air Force One Ukraine. Le défi sécuritaire est immense, mais nous allons le relever, soutiennent les autorités italiennes confiantes.
Les précisions de Mathilde Imberti, envoyée spéciale à Rome pour Inter. Et le public pourra se recueillir sur la tombe de François dès dimanche matin, indique le Vatican. Et parmi les chefs d'État présents aux funérailles du pape, il y aura Emmanuel Macron. Le président français a écourté sa tournée dans l'océan Indien. Il était à Madagascar hier pour apaiser les relations entre la France et son ancienne colonie. Il a notamment annoncé la création d'un comité mixte d'historiens français et malgaches. Ils seront chargés de travailler sur les atrocités commises pendant la décolonisation.
L'Inde et le Pakistan au cœur d'un bras de fer diplomatique.
Deux jours après l'attentat qui a fait 26 morts dans la région du Cachemire, l'Inde impute au Pakistan la responsabilité de l'attaque contre des touristes. Les autorités des deux pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le territoire de leurs voisins hier. Une escalade des tensions qui fait craindre de nouvelles violences au Cachemire. La région est disputée par les deux puissances depuis la fin des années 80.
Et puis à 5h06, cette question des annonces pour lutter contre les déserts médicaux.
Le Premier ministre François Bayrou et le ministre de la Santé Yannick Noether sont dans le Cantal aujourd'hui. Ils doivent faire des propositions alors que les médecins prévoient de se mobiliser la semaine prochaine contre un projet de régulation de leur installation. 87% du territoire français est considéré comme un désert médical. Et Alice Cachaner, le ras-le-bol des patients est palpable.
Clélia est une jeune femme diabétique. Elle vit à Montluçon dans l'Allier et ne trouve pas les spécialistes dont elle a besoin dans son département.
D'être obligée d'appeler 50 spécialistes pour que tous me disent « bah oui, mais vous n'êtes jamais venu, donc en fait, on ne prend pas de nouveaux patients, on est déjà surchargé. Bah oui, mais en fait, tout le monde me dit ça. »
Résultat, elle parcourt des kilomètres pour être soignée.
Je vais voir un angiologue sur Guéret, je vais voir un cardiologue sur Bourges, je vais voir un dermatologue sur Clermont, puisqu'on a entre 18 et 24 mois d'attente.
Alors que de nombreux médecins s'opposent à toute forme de contrainte à l'installation, d'autres appellent à la solidarité. C'est le cas de Laure Artru, rhumatologue à la retraite. Elle préside l'Association nationale des citoyens contre les déserts médicaux.
Ce qu'on demande, c'est que les médecins s'organisent. Mais on ne les voit pas, on ne les entend pas. Où êtes-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? Moi, je suis médecin, je pense que les médecins pourraient s'organiser. C'est ce que font toutes les autres professions de santé.
À l'image des dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers dont l'installation est déjà régulée, la médecin souligne un enjeu de santé publique.
Vous comprenez, les préventions de cancer ne sont pas faites dans les campagnes. C'est ça la réalité du terrain.
Selon les chiffres du ministère de la Santé, la désertification médicale touche 9 millions de Français.
Alice Cachaner, service Sciences, Santé, Environnement de France Inter. Et d'après les sondages d'opinion, près de 9 Français sur 10 sont favorables à une régulation de l'installation des médecins. Il avait envoyé des mails de menaces terroristes à 180 centres d'information et d'orientation en France. Un jeune homme de 18 ans, originaire du Mans, reconnu coupable par le tribunal des mineurs hier. Dans ses messages envoyés en avril 2024, il annonçait une journée de terreur aux structures éducatives. Il devra effectuer une période de mise à l'épreuve avec un suivi pédagogique obligatoire. Sa peine sera connue à l'issue de cette période de sûreté.
C'était le journal de Raphaël Ben Abdelmoumen. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Un temps contrasté aujourd'hui, Élodie Calac.
Ensoleillé au sud, mais encore nuageux au nord. Sur les régions de la moitié nord, pas mal de nuages ce matin. Un peu plus d'éclaircies dans l'après-midi. Quelques averses circulent de l'Alsace vers la Franche-Comté et la Haute-Savoie. Et on attend quelques gouttes sur la Bretagne cet après-midi, prémisse de la dégradation qui gagnera les régions de l'ouest demain. En allant vers le sud, c'est plus agréable. Le soleil doit composer avec les brouillards ce matin, mais ils auront disparu cet après-midi. Et puis sur les Pyrénées, autour de la Méditerranée, sur le sud des Alpes, là c'est un grand soleil dès ce matin, avec du mistral jusqu'à 60 km à l'heure. Les températures perdent quelques degrés ce matin, comptez souvent 4 à 9 degrés, parfois un petit degré seulement vers le massif central, mais 10 à 14 en Méditerranée. Cet après-midi, ça va remonter, surtout sur le sud-ouest, 17 degrés attendus à Cambrai, à Dinard, 18 à Nancy, Paris et Lyon, 19 degrés à Bourges, 20 à La Rochelle, à Grenoble ou à Nice, 23 pour Bayonne et Montauban et 24 degrés à Marseille et à Perpignan.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. le 5-6.
5h et presque 10 minutes à suivre sur Inter. Un homme venu du froid rencontre avec un passionné des pôles dans les chroniques littorales. Notre invité déjà debout se lève tôt pour nous nourrir. Nous serons en ligne avec un producteur de fraises, tomates et kiwis dans le Lot-et-Garonne à 6h moins le quart. Et justement, il sera question de souveraineté alimentaire dans la chronique d'où ça sort. Et puis, vous aurez bien sûr votre dose d'humour au petit matin. Aujourd'hui, c'est avec Amandine Lourdel et c'est à 5h25. Dans quelques minutes, donc, les chroniques littorales, mais d'abord la musique avec Au Clou. Elle chante Blade Bird.
You're so cute, my blade is on the blade. I'll be the one who ends up getting hurt. I can't help it, blade is on the blade. I'll be the one who ends up getting hurt.
Au Clou. Deux dates si vous voulez la voir, le 24 novembre au Transborder à Lyon et le 27 novembre à Rennes. 5h13 sur France Inter, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et comme d'habitude, vous consacrez les chroniques littorales du vendredi à des portraits de gens de mer. Aujourd'hui, José-Emmanuel, vous recevez un homme des pôles.
En la personne de Laurent Maillet, Marion, Laurent Maillet, on va dire Laurent Maillet, l'homme des pôles. Bonjour Laurent Maillet.
Bonjour.
Laurent Maillet, d'abord vous êtes le président d'un think tank, le Cercle Polaire. Et surtout vous avez été l'adjoint de Michel Rocard quand il était ambassadeur des pôles. Et vous continuez justement dans les pôles puisque vous avez créé avec d'autres Polar Watch. Qu'est-ce que c'est que Polar Watch?
On a voulu en effet créer un média qui mette sur la table des sujets qui restent quand même assez confidentiels, il faut bien le dire. Même si les médias souvent maintenant font écho des grands enjeux polaires, on n'en a toujours qu'une version un peu édulcorée, pour la raison que dans les grandes réunions où on parle pôle, eh bien, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas d'invité extérieur, et donc tout ça reste quand même assez confidentiel. Et l'idée, c'est que ces sujets, aujourd'hui, ne sont plus seulement des sujets intergouvernementaux. La société civile s'y intéresse, et un jour ou l'autre, peut-être, la société civile sera consultée pour prendre de grandes décisions, si d'aventure, il y en avait quelques-unes à prendre.
Et Polar Watch est parrainé par Alberto de Monaco.
Alors, effectivement,
ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est l'Institut océanographique de Monaco.
Tout à fait. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le prince Albert II reste une figure politique majeure pour tout ce qui concerne la protection des océans et des pôles. Et donc, nous sommes tout à fait honorés qu'il ait accepté. Il y a par ailleurs le CNRS qui a accordé son parrainage. Donc, on trouve Polar Watch sur le site du CNRS, l'Institut Polaire, plusieurs universités étrangères, des think tanks européens. Tout ça, c'est pour augmenter la diffusion, la caisse de résonance de Polar Watch.
Laurent Maillet, personnellement, vous êtes plutôt arctique ou antarctique?
Ah, moi, je suis un antarctique incurable.
Un antarctique incurable?
Absolument.
Oui.
Parce que l'Antarctique, l'Antarctique, c'est la démesure. L'Antarctique, c'est incomparable.
Mystère quand même, les pôles.
Je ne me souviens plus du nom de cet explorateur islandais qui disait que les pôles, c'est toujours un mélange d'imaginaire et de réalité. Même quand on fait de la réelle politique, il continue d'y avoir dans le discours des références à un imaginaire dont on n'arrive pas à se débarrasser.
Combien de fois êtes-vous allé au pôle ?
Oh, je ne veux pas rendre jaloux ceux qui rêvent d'y aller, mais j'y suis allé, disons, une trentaine de fois en Antarctique et puis à peu près autant en Arctique.
Et qu'est-ce qu'on y ressent quand on arrive ?
Moi, je parle souvent de mystique des pôles, c'est-à-dire qu'il y a une expérience personnelle, une expérience profonde. Il y a bien sûr ces paysages sans pareil, mais c'est aussi une manière toujours de se mettre un peu à nu, je trouve, une manière d'y aller un peu déshabillé. Le roi est nu, comme on dit parfois. La fonction sociale qu'on occupe n'existe plus. On est dans un face-à-face avec une nature à la fois merveilleuse et intimidante. Donc moi, j'avoue que là-dessus, j'ai un petit tropisme très marqué.
Il y a une couleur.
Quand on a créé le cercle polaire, on s'est dit l'Antarctique, mais l'Arctique peut-être aussi, l'Antarctique, ça n'est que deux couleurs, le blanc et le bleu glace, d'où les deux couleurs qu'on a rassemblées dans le logo du cercle polaire.
Et la lumière ?
Et la lumière, j'ai souvent comparé la lumière à la Grèce, une lumière à la fois aveuglante et une lumière omniprésente, mais j'ai fini par nuancer cette comparaison parce que la lumière en Antarctique est souvent rasante, mais en tout cas une lumière éblouissante qui fait ressortir les formes d'une manière très particulière.
C'est le monde du bruit ou le monde du silence, les pôles ?
Ah, je pense que c'est plutôt le monde du silence. En tout cas, c'est le monde du silence parce que c'est un monde où le bavardage humain s'arrête. Alors ensuite, bien sûr, on entend le vacarme animal, on entend la glace qui crisse.
Oui,
mais
vrai.
C'est le monde du silence parce que quand on arrive en Antarctique, d'abord, on peut plus communiquer parce que le vent fait qu'on peut plus avoir une conversation avec ses compagnons. Et c'est là, pour moi, c'est aussi un monde où le bavardage s'arrête, place à la nature grandiose.
Et quand vous n'êtes pas au pôle, vous avez envie d'y retourner ?
Je sais qu'une bonne année pour moi, c'est une année où je suis allé au moins une fois en Antarctique et une fois en Arctique. Comme une forme d'hygiène de vie, vous voyez.
Laurent Maillet, on va vous suivre dans Polar Watch. Et Polar Watch, c'est au sein du Cercle Polaire avec un site internet, lecerclepolaire.com. Merci Laurent Maillet.
Merci à vous.
Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Manuel Lamarque. Il est 5h17 sur France Inter.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin se partagent entre la grâce chrétienne et les tourments du monde. Beaucoup de place réservée encore aujourd'hui au pape François, mort lundi dernier, lundi de Pâques. Même les Échos consacrent leur une au souverain pontife. Photo sur une place Saint-Pierre, noir de monde au Vatican. Le Vatican, capitale du monde ce week-end, si on en croit le quotidien économique, qui rappelle que les funérailles vont attirer de très nombreux chefs d'État et de gouvernement, de Trump à Macron, en passant par Zelensky et Milei. Rome, carrefour du monde, titre comme en Écho, le quotidien chrétien La Croix, là c'est moins surprenant. Le cliché en plongée montre les gardes suisses en tenue traditionnelle, entourant le cercueil en bois de François. Plus de 130 délégations sont attendues, note le journal. L'occasion donc de contacts diplomatiques plus ou moins formels. Une fois n'est pas coutume, c'est l'angle religieux qui intéresse plutôt l'humanité. L'Église à la croisée, c'est le grand titre, illustré par une photo de cardinaux, de dos, tout de blanc et de rouge vêtus. Le quotidien communiste évoque les clivages des successeurs potentiels du pape entre traditionalisme et ouverture, un mot que le journal met entre guillemets. La planète catho brille toujours, analyse de son côté l'opinion. 200 000 fidèles attendus à Rome. Et justement, le dessin de CAQ montre un encensoir qui se balance entre progressistes d'un côté et conservateurs de l'autre. Jean-Paul II et François à gauche, donc Benoît XVI à droite, sous le regard médusé des fidèles. Le journal note aussi que Bardella, président du RN, sera présent à Rome pour ce pape pourtant diabolisé par l'extrême droite, selon l'opinion. Il y a malgré ce sentiment religieux soudain aussi, le fracas du monde, donc les bombes, la terreur, la faim à Gaza, raconté dans Libération. La Crimée, région ukrainienne occupée au cœur du bras de fer entre Trump et Zelensky, c'est dans le Figaro. Le cri des lycéens de Nantes dans cet établissement où l'un des élèves est venu en cours armé de deux couteaux, un mort et trois blessés, relate le Parisien en une avec ce titre. À 16 ans, il attaque des élèves au couteau. Le quotidien note le profil inquiétant de l'agresseur. La Chine qui passe à l'attaque sur les terres rares, selon les Échos. C'est-à-dire que Pékin se met à limiter les exportations de ces minerais critiques dont le reste du monde ne peut pas se passer. À chacun ses moyens ensuite pour s'isoler de ses tourments. Le Parisien Week-end nous invite dans le monde des loisirs immersifs avec une très belle photo d'un visiteur littéralement plongé dans un tableau du douanier Rousseau. Quant au milliardaire américain Warren Buffett dans les Échos magazine, sa fortune continue d'augmenter contre vents et marées. Eh bien, tant mieux pour lui. À 5h19, comme tous les matins à cet horaire, un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, d'où ça sort ?
Direction Rome, sommet mondial de l'alimentation organisé par la FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Nous sommes en 1996. Une coalition de mouvements paysans du monde entier va se faire connaître la Via Campesina. Je vous la présente, cette coalition est née en 1993, donc 3 ans avant. Elle rassemble des millions de paysannes et de paysans, de petits et de moyens producteurs et de travailleurs agricoles. Retour à Rome, donc 3 ans plus tard, la Via Campesina dit ceci. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à définir leur politique agricole et alimentaire, sans dumping, sans dépendance, sans diktat du marché mondial. Presque 30 ans plus tard, ça peut vous paraître de l'évidence. Pourtant, à cette époque, cette manière de voir les choses ne l'est pas du tout.
Et au milieu des années 90, on parle d'autre chose.
Oui, on parle en fait à ce moment-là de sécurité alimentaire. C'est-à-dire s'assurer que tout le monde puisse se nourrir où qu'on se trouve sur la planète. Et ça, ça a une conséquence. On importe, on exporte. Ce qui compte, c'est que tout le monde puisse manger à sa faim. Donc là, avec la Via Campesina, on change totalement de paradigme. Maintenant, il s'agit de pouvoir se nourrir par soi-même, de se nourrir grâce à ce qu'on produit chez soi. La position de ce mouvement de paysans, c'est une position militante, politique et sociale. Elle dénonce les méfaits de l'agro-industrie, des accords de libre-échange et des multinationales qui décident ce qu'on cultive et ce qu'on mange. Mais une fois qu'on a pris cette position, que se passe-t-il ? Qui peut prétendre à cette souveraineté alimentaire ? Sommes-nous égaux face à cet enjeu ? Et est-ce que ça signe la fin de cette idée où chacun doit pouvoir manger à sa faim ?
Eh bien, réponse dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous les deux reviennent à 16h cet après-midi et ils nous emmèneront notamment prendre le vent et les embruns avec la navigatrice Marie Tabarly. 5h21 sur Inter, on continue en douceur et en poésie avec le groupe de musique pop franco-britannique François and the Atlas Mountains qui nous emmène sur le fil, c'est le titre.
J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet de vie s'enfuir à jamais. La foule folle alliée, tribu de cinglés. Je veux prendre les choses en main, pour leur faut juste se tailler. Mais les voiles plient sous le poids des années. Les mains sont un fatras de combine alambiquée. Courir vers toi un temps, le temps de tout dépenser. Au pied d'un mur d'argent, s'évader dans ses pensées. Respire le parfum de tes cheveux, si le moment se prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Cette fille agile, déroule en main de le fil. J'avais à cœur de t'emmener dans des lieux isolés. Un seul projet passé entre les mailles du filet. Tu dis que je saute des cases, mais je vais pas seul poireauter. Je passe de point de paroter, GPS coordonnées. Je m'encogne, mon cœur est une boussole. Je suis magnétisé. Parfum de tes cheveux, si le moment s'y prête, respire un peu. Attire, toucher du bout des yeux, peu à peu, juste du bout des yeux. Un peu, le style qui pline entre les cils, cette fille agile, déroule et remet le fil. Cette fille agile, déroule et remet le fil. Un peu le style qui cligne entre les cils. Cette fille agile, déroule et remet le fil.
Le fil de François and the Atlas Mountains, titre issu de leur album H-Fleuve, sorti cette année. Le groupe est en tournée, première date le 15 mai à Toulouse et le 24 à Lyon.
France Inter.
À 5h25, Charline Van Hoonacker est en vacances. On retrouve donc Amandine Lourdel, qui est dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour. Elle était à la matinale du 7-10 toute cette semaine.
Écoutez, j'ai une pote qui est intervenante de théâtre en lycée, parce qu'en tant que comédien raté, c'est soit le théâtre forum, soit le stand-up, et qui vient d'apprendre qu'elle n'était pas reconduite l'année prochaine parce que la direction des affaires culturelles de sa région a sucré des subventions pour ce type de projet. J'ai pas fait cartomancie deuxième langue, mais entre ça et les réformes du chômage, tu te dis ça commence à puer doucement la merde pour l'intermittence. Hein. Alors qu'elle en a vraiment besoin, ma pote, de ce boulot, pour, en parallèle, continuer à produire des performances à Aurillac de type les fourberies de Scapin avec une scénographie tout en bâton du diable. Ce qui peut être vu comme non essentiel, je le conçois, mais ils prennent tous les risques pour faire rêver les gens. Je veux dire, Loïc, acte 2, scène 4, il est mal retombé sur son bâton du diable, il a pas pu s'asseoir pendant 2 mois. Surtout que, quand t'es payé au chapeau, la mutuelle ne suit pas. C'est pour ça que c'est bien l'intermittence. Moi j'ai dit à Loïc, ce que tu fais cette année, c'est que tu te fais financer une formation de cascadeur par l'AFDAS, comme ça t'arrives solide pour votre mise en scène d'incendie de Mouajid Ouawad, tout en monocycle pour Chalon dans la rue. Non, parce que c'est quand même chouette de savoir qu'on vit dans un pays où l'État protège la culture. Je veux dire, j'ai pas envie que dans 20 ans, pour nos gamins, les seules représentations artistiques qu'ils connaissent, ce soit la reprise du Roi Lion à Mogador pour fêter leur 400 000e et VTEP en prime à l'Opéra Garnier. Ou alors, supprimer les ateliers théâtre, ça fait partie d'un plan plus large pour lutter contre la pédocriminalité, mais faudrait dire au gouvernement, tous les profs de théâtre ne sont pas Brigitte. C'est rigolo parce que, en parallèle, sur le stade de Fréjus en ce moment, il y a des ateliers qui sont organisés pour faire découvrir aux enfants ce que c'est que le métier d'agent du raid. Avec des gamins qui rampent en gilet pare-balles, armes factices à la main, pour créer du lien avec la police. Je vous avoue, bêtement, je pensais que créer du lien avec la police, ça voulait dire avoir des ennuis. Mais chacun son point de vue. Non, franchement, je refuse que mes enfants aient option GIGN dans le cadre des ateliers bleus, quoi. Oh, CP, mais c'est super ça, Mathéo, t'apprends à lire. Non, mais je sais comment mettre une matraque dans un cul. Bon, après, si j'avais des enfants, je me connais, je les enverrais en classe 15 jours sur 2, parce qu'aujourd'hui, on va pas à l'école, on reste à la maison et on déprime. Si ça se trouve, c'est comme ça que Retailleau est devenu ministre de l'Intérieur. Bah, il sortait de son atelier voltige sur double poney financé par le Puy du Fou. Il est passé devant un atelier de là-bas qui s'est dit « Tiens, ça a l'air sympa, je vais m'inscrire ». Non, vraiment, je suis pas sûr qu'on aille dans le bon sens dans notre société. Tout le monde dit que La Servante Écarlate, c'est ni plus ni moins qu'un documentaire sur l'Amérique de 2026, mais je vous garantis que la France de 2025, c'est pas camping paradis. Hein. En même temps, c'est vrai que si on se prépare à la guerre, connaître par cœur 3 escargots de Maurice Carême, ça va être moins utile que de savoir monter un fusil d'assaut. Après, oui, tous les enfants jouent à la guerre. Tous les enfants du monde jouent à la guerre. Peut-être que c'est à nous, adultes, d'être garants, de les ouvrir à autre chose. Moi, j'essaye avec mon neveu. La dernière fois, il me dit « Amandine, tu peux réparer ma camionnette de gendarmerie ?» J'ai dit « Non, Arsène, nique la police. Si on répare leur véhicule, ils vont encore aller taper du militant écolo à coups de LBD comme à Sainte-Soline. Joue plutôt avec ton char arc-en-ciel qu'on t'a offert pour Noël. » Et puis, profites-en bien, parce que le Père Noël, c'est quand même un gars qui fait qu'une seule tournée par an, et quand il n'aura plus assez de cachet pour renouveler son intermittence, t'auras que le rétroviseur du véhicule sous le sapin.
Amandine Lourdel, et vous retrouverez bien sûr la semaine prochaine Charline Van Hoonacker à cette même heure, dans une poignée de secondes, le journal.
Tous les jours, les humoristes de France Inter vous révèlent.
T'as des pauvres, imprime la moula, imprime-le. Il y a de l'inflation, baisse le prix des merdes. Arrêtez de nous faire chier avec votre budget.
Vous gratte.
J'évite tout rapprochement intime au travail. C'est pour ça que je travaille dans la bande originale.
Vous pique.
Donc c'est l'histoire d'un DJ de campagne qui trouve des Santiags et quand il les met, il devient hyper fort en musique et finit à Ibiza. Me remercie pas, mon Dupieux, ça me fait plaisir.
Les humoristes toute la journée dans votre radio et quand vous voulez sur la chaîne YouTube de France Inter.
Juste avant le journal, un programme, un avant-goût du 6-9 de ce vendredi. C'est la fête des libraires indépendants demain, concurrencés par Amazon et par les grandes surfaces. Ont-ils encore leur place? Eh bien, plus que jamais, nous dira à 6h20 Amanda Spiegel, libraire à Montreuil en région parisienne et vice-présidente du syndicat de la librairie française. Donald Trump est encore au programme du débat éco à 7h45 après l'annonce d'un possible recul sur les droits de douane chinois qu'il avait porté à 145%. Le président des États-Unis est-il en train de renoncer sur ce plan-là et sur d'autres? Nous en parlerons avec nos débatteurs Thomas Porcher et Dominique Seux. Et puis, à 8h20, dans le grand entretien, notre invité est Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Il signe aux éditions de l'Observatoire un nouvel ouvrage, Un chien parmi les loups, violence de notre société, violence des relations relations internationales, mais aussi difficile équation budgétaire et choix à venir à gauche. Il répond à mes questions et aux vôtres 01 45 24 7000 dès 7h ou sur l'application France Inter. France Inter, il est presque 5h30. Et le journal, c'est avec Raphaël Ben Abdelmoumen. Bonjour.
Bonjour.
Le cortège des fidèles est toujours aussi dense, place Saint-Pierre à Rome.
Depuis mercredi, plus de 90 000 personnes ont pu apercevoir une dernière fois la dépouille du pape défunt. Et dans la capitale italienne, les hommages s'enchaînent. À l'église Saint-Louis des Français se tenait une messe pour François hier soir. Quatre cardinaux qu'on célébrait, dont les deux Français les plus médiatiques, Monseigneur Aveline et Monseigneur Bustillo. C'est l'archevêque de Marseille qui présidait la cérémonie. Il a prononcé l'homélie pour le pape et à une dizaine de jours du conclave, il était la vedette de la soirée, Bruno Duvic.
C'est lui que les nombreux prêtres qui ont participé à la messe applaudissent à la sortie. Le cardinal Aveline salue des connaissances, effleure la tête d'une petite fille qui s'approche. Un fidèle lui souhaite bonne chance. Il résume en italien ce moment entre deuil, chaos et responsabilité. Ce n'est pas facile, mais devant la presse, l'archevêque de Marseille n'est pas très disert.
Pour nous, c'est une longue retraite, voilà, dans le recueillement, dans le silence. Merci.
Lors de la communion, Monseigneur Aveline distribuait les hosties aux côtés de Monseigneur Bustillo, l'archevêque d'Ajaccio, qui commente l'hommage populaire au pape.
Écoutez, impressionnant. Il m'est plongé au milieu de son peuple, et il l'a fait dimanche, et là, la foule lui rend hommage.
Et la suite, 135 cardinaux qui choisissent pour plus d'un milliard de catholiques.
On ne doit pas être dans la tactique, on doit être dans le service, non pas entre nous, les 135, mais nous devons penser à 1 milliard 400 millions qui sont dehors. C'est eux qui méritent mon pape. On va connaître nos confrères cardinaux. On va discerner avec eux et à la fin, on va décider d'un pape qui se donne, qui aime, qui sème la paix dans le monde.
Une nouvelle congrégation générale des cardinaux, la quatrième depuis la mort du pape, se tient ce matin.
Bruno Duvic, correspondant de France Inter à Rome. C'était aujourd'hui le dernier jour pour se recueillir devant le corps du pape avant ses funérailles samedi. Quelques 130 délégations étrangères ont confirmé leur présence, parmi lesquelles 50 chefs d'État élus et 10 souverains. Et seront présents justement Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, ainsi que son homologue américain Donald Trump. Le dirigeant ukrainien qui espère bien pouvoir échanger avec le chef d'État américain au sujet du conflit en Ukraine. Hier, Kiev a accusé la Russie d'avoir utilisé un missile fabriqué en Corée du Nord pour frapper la capitale ukrainienne dans la nuit de mercredi à jeudi. L'attaque a fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés. Vladimir, arrête, s'est agacé Donald Trump sur son réseau social. Le président américain n'est, je cite, pas content de ces frappes au très mauvais timing, alors que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, déclare ce matin que la Russie est prête à conclure un accord.
En France, il n'y aura pas cours au collège-lycée Notre-Dame de toutes aides à Nantes aujourd'hui.
Après la mort d'une élève poignardée par un camarade de seconde hier. Trois autres lycéens ont été blessés. Pour l'un d'entre eux, le pronostic vital est engagé. Ce sont des enseignants qui ont maîtrisé l'assaillant, un jeune de 16 ans, élève de seconde. Le Premier ministre François Bayrou s'est exprimé hier soir sur cette affaire. Il dit vouloir tout faire pour que les armes blanches ne puissent plus entrer dans les établissements scolaires.
Nous allons, dès cette semaine, réunir le groupe de travail que j'ai constitué il y a quelques semaines sur la volonté de bannir le port d'armes blanches dans les établissements et dans les lieux de rencontre pour les jeunes. Et puis nous allons multiplier les contrôles auprès des établissements scolaires. Je pense qu'il est très important qu'on mesure que le port d'armes blanches ne peut pas être accepté dans la communauté scolaire. La situation dans laquelle on se trouve, ou le déséquilibre d'un jeune homme qui simplement n'arrive pas à trouver sa place, entraîne la mort de ceux qui l'agressent. Cette situation-là, pour nous tous, elle ne peut pas être acceptée durablement.
Et le lycéen soupçonné d'avoir donné les coups de couteau a été interné en hôpital psychiatrique hier soir. Son état de santé ne lui permet pas d'être en garde à vue, c'est ce qu'a conclu le psychiatre qui l'a examiné. L'État sommet d'intervenir après l'annonce par ArcelorMittal de la suppression de 600 postes. 7 sites du nord de la France sont concernés. Pour le député LFI Éric Coquerel, le sidérurgiste doit être nationalisé. L'État doit intervenir au capital, plaide également le député de la Somme François Ruffin. Xavier Bertrand, le président président de la région Hauts-de-France exige, lui, une table ronde et des garanties de l'État pour qu'ArcelorMittal puisse continuer à investir en France.
Et Bruno Retailleau s'en prend au lycée Averroès de Lille.
C'est un bastion de l'entrisme islamiste, selon le ministre de l'Intérieur. Alors même que la justice administrative vient de rétablir le contrat d'association entre l'État et le lycée musulman, les juges ont estimé que les manquements graves pointés par la préfecture ne sont pas caractérisés. « Je souhaite que l'État fasse appel », a répondu Bruno Retailleau. Le ministre foule au pied l'État de droit, s'insurge la direction du lycée, qui estime qu'il véhicule des rumeurs destinées à fracturer la société française en ciblant les musulmans. Et puis Roger Federer donnera le départ de la 93e édition des 24 heures du Mans. La course automobile s'élancera le 14 juin prochain. Le tennisman suisse qui succède dans ce rôle à Zinedine Zidane, LeBron James ou encore Brad Pitt.
Rien que ça. C'était le journal de Raphaël Ben Abdelmoumen. Bonne journée Raphaël. Sous une météo plus belle qu'hier, plus d'éclaircies mais encore quelques averses et deux départements en vigilance orange crue, la Gironde et la Charente-Maritime. La journée commence sous la grisaille dans certaines régions. Attention aussi aux bandes brouillard ce matin dans les vallées du sud-ouest et du centre au nord-est. Il fera ensuite de plus en plus beau, éclaircies plus larges dans le sud, c'est le ciel plus variable sur le nord avec quelques averses sur le nord-est dans l'après-midi et sur les reliefs des Alpes et de Corse. Sur le sud-ouest, le Mistral et la Tramontane soufflent jusqu'à 70 km/h. Une perturbation reviendra ce soir par la pointe bretonne et s'étendra dans la nuit. Côté thermomètre, prévoyez ce matin 1 à 14 degrés, 13 à 24 cet après-midi, 14 à Cherbourg, 17 à Brest, Lille et Strasbourg, 18 à Lyon, Nancy et Clermont-Ferrand, 19 à Paris et Rennes, 21 à Bordeaux et Toulouse, 23 à Biarritz et Marseille et 24 à Perpignan.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de la playlist de Mathieu Conquet. Et oui, on se réveille. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Et ce matin, vous nous parlez d'un chanteur, un petit nouveau qui fait ses débuts au Stade de France.
Et oui, après Johnny ou Mylène Farmer, ils sont rares ceux qui peuvent réunir dans la plus grande arène sportive. Gims et Booba l'ont déjà fait. Pour lui, il a suffi de quelques minutes pour que tous les billets s'envolent. Allez, on fait le signe dès demain, ouais, pour demain. Pour Jules, bien sûr.
Je me suis fait sale, you you you. Je vais finir sale, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you you. Je me suis fait sale, you you you. Je vais finir sale, you you you. Phénoménal, you you you. J'remplis des stades en you you you.
Phénoménal, et oui, sa mère avait raison. Et à 35 ans, Julien Marie remplit des stades en toutou, en deux secondes, parce qu'il n'y a pas que le Stade de France. Demain, il y a aussi deux vélodromes à Marseille en mai.
Ah oui.
Mais il n'y a pas de mai. Son nouvel album D&P à vie sort aujourd'hui. D&P, vous savez pourquoi ?
D'or et de platine.
Mais oui, vous le savez, c'est son label, c'est sa marque. Il ouvre même un magasin éphémère, un pop-up store pour les jours qui viennent dans la capitale.
Ah oui.
Côté musique, D&P à vie, ce sont 17 chansons, dont Love et Haine en duo avec le rat Luciano de la Funky Family, histoire de rappeler l'héritage avec les aînés marseillais, parce que Jules, c'est pas le premier venu de la planète Mars, bien sûr, il y a eu I Am, les psychiatres de la rime, Soprano, Kenny Arcana, Soso Maness avant lui, mais aussi avec lui, SCH, Naps et bien d'autres en bande organisée.
Oui.
Ouais, ça c'est déjà un classique. On verra qui sera là demain sur scène avec lui au Stade de France. Et si l'on entendra du Corse, alors ça c'est probable parce qu'on sait qu'il écoute beaucoup de chants traditionnels.
Ah oui.
Jules postait récemment sur son compte Instagram une belle chanson par Marco Antone Fantoni. Et il faisait aussi ce duo corsé récemment.
Un po' su rompe cadene.
T'inquiète pas, c'est genre depuis le départ. Quand tu sous le bruit des bouts, je n'aime pas ce qu'on m'en croyait pas et m'en voulait pas. Fais tout ça guette, ça tourne dans ma tête. Crois pas que je me la pète, je fais pas le mec. Ça m'en veut, je fais avec. Je les ai aidés la veille, je fais pas la fête. En ce moment, je fais la tête. Tu pépises pas le top, ça t'endette. Tu te fais le Robocop, si tu fais la top. Corse dans le sang, vas-y, monte le sang. Vas-y, fais le signe. Wesh alors, merci bien la zone, merci bien la zone. C'est son 2-2, le rap mon dada. Avec son même popo.
En 2-2, toujours, c'est son dada, Jules. Ce duo Capata avec le chanteur Francesco Zito. C'était dans l'album précédent, non?
Oui, Inarrêtable, qui était sorti en décembre dernier. Vous vous rendez compte, c'était une éternité, il n'y a même pas 5 mois.
Ouais.
Jules, l'extraterrestre, plus de 23 albums au compteur.
Incroyable.
Je ne suis même pas sûr qu'il y a tout, sans compter les mixtapes. J'ai dénombré plus de 657 chansons. Hein, ça lui laisse le choix pour le répertoire des concerts. Je cours après le temps, je suis loin de tout, disait il y a presque 10 ans déjà celui qu'on appelle l'OVNI. Ah, celle-là, on parie tout de même qu'il devrait la chanter demain soir. Et souvenez-vous, comme le disait c'est le titre de cet album-là. On n'a rien, sans rien. Sous la lune, avec Jul.
Je cherche pas la belle vie, je la trouverai. Je suis loin de ces belles filles qui me couraient derrière et qui pour moi mouraient. Je suis plus au quartier, je suis moins entouré. J'ai des petits problèmes, mais t'inquiète, t'en fais pas. Toi, je te dirai plus rien parce que tu te tais pas. J'aimais traîner, j'aimais bien rentrer tard. Puis dégoûter des gens, c'est Netflix pétard. J'ai vu quand tu passais si tu m'as senti bizarre. Est-ce que tu m'as fait mal ou que t'es usure? Je sais que les petits jaloux m'ont dans les viseurs. Maintenant, quand je rentre, je regarde le rétroviseur. J'ai poussé toi, moi, je suis pas là par hasard. C'est pas pour rien tout ce qu'il y a dans la salle. Mon petit bouchon a 5 ans dans le sac. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une, alors je fais vodka, shot, ça grume. J'ai le cerveau qui fume, laissez-moi, je suis sous la lune. Et j'en ai vu plus d'une, alors je fais vodka, shot, ça grume.
Demain soir au Stade de France à Paris, puis au Stade Vélodrome à Marseille. Vous faites très bien, Jul, Mathieu. Les 23 et 24 mai, l'album D.E.P. à vie est disponible partout. Et on entendra Jul ce soir, Mathieu, sur France Inter.
Bien sûr, avec les autres nouveaux sons de Théodora, des Viagra Boys. Je vous parlerai aussi de Gougouche, la diva iranienne qui apparaît dans le dernier clip de Ed Sheeran. Eh oui, tout arrive. Et je remets le son à ce soir, 21h.
À ce soir. À 5h42, le zoom de la rédaction nous emmène aux États-Unis où le monde académique affiche son unité face à Donald Trump et dénonce l'ingérence de l'administration américaine. Sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme, le président s'attaque en effet aux grandes universités, notamment à leur financement. Mais la résistance donc s'organise désormais. Loïc Loury, correspondant de France Inter à New York.
Comme ici à Wesleyan, dans le Connecticut, petite mais prestigieuse université de la côte Est, les balles de baseball fusent, les étudiants révisent dans l'herbe au milieu de ce campus vallonné une bulle de savoir qui est venue déranger Donald Trump. Aggie est étudiante en littérature.
C'est dur d'être au milieu de cette crise quand on est juste un gamin qui essaie d'étudier. J'ai 20 ans et c'est d'autant plus dur qu'ici on est dans un endroit avec des gens ouverts d'esprit qui ne veulent qu'apprendre. Je sais que malheureusement, ce n'est pas comme ça partout. Mais j'imagine que je suis chanceuse d'être ici où on ne soutient pas Donald Trump.
Le président de Wesleyan, Michael Ross, en effet, a été l'un des premiers à dénoncer, sans prendre de gants, les ingérences de l'administration.
Il est important que ceux qui ont l'opportunité d'attirer l'attention sur ces menaces contre la démocratie le fassent. J'appelle ça un moment Vichy, le dilemme de la collaboration. Le gouvernement vous menace, alors vous vous taisez pour ne pas attirer plus de problèmes à votre campus. Mais le gouvernement continue de vous menacer. Il faut alors se taire encore plus. Et c'est une pente glissante qu'on ne veut pas emprunter.
Alors certes, Wesleyan n'a pas des milliards à perdre en fonds fédéraux, mais cela n'empêche pas Michael Ross de critiquer l'inertie qui avait prévalu jusque-là.
J'ai pressé certains collègues de s'exprimer parce que ce qui est vraiment menacé, ce ne sont pas nos dotations, c'est la liberté, celle de faire de la recherche, d'exprimer nos opinions, de s'opposer au gouvernement. Et cette menace ne concerne pas seulement l'université, c'est la liberté des citoyens qui est en jeu.
Une liberté à laquelle Columbia, la prestigieuse université new-yorkaise, a renoncé il y a un mois.
L'épicentre du mouvement pro-palestinien de l'été dernier fut aussi la première institution à plier face aux assauts de Donald Trump. Sous prétexte de lutter contre ce qu'il décrit comme une vague antisémite, le président s'est attaqué aux grandes universités.
« It's a shame, it's a huge shame. »
Une honte, fulmine Grant Miner, étudiant et activiste renvoyé pour cela de Columbia.
« C'est mauvais, ils essayent de détruire l'indépendance des universités afin d'écraser toute forme de protestation. » C'est une tentative claire de mettre tout le monde au diapason des idées de cette administration.
Un prétexte qui a surtout justifié l'arrestation de deux de ses étudiants étrangers et le gel pour Columbia de 400 millions de dollars. L'université, depuis, a fait d'énormes concessions jusqu'à la mise sous tutelle de certains départements d'études. Ophélia y est professeure.
J'ai très peur pour mes étudiants. Et ils ont peur. Tout le monde a peur. Mais je suis aussi très inquiète pour l'indépendance de la vie académique. Ça envoie valdinguer votre monde. Ils vont s'attaquer aux médias, aux juges, à l'éducation. Parce que c'est là que s'organise toute résistance consciente.
Cette résistance, c'est à Harvard qu'elle s'est finalement exprimée. L'université a dit non aux exigences de Donald Trump malgré le gel de 2 milliards de dollars de subventions. Marie, professeure à Columbia, manifeste dès qu'elle le peut.
Depuis qu'Harvard a décidé de résister, les autres universités se disent qu'elles aussi peuvent le faire. Je suis en colère et très triste. Je suis professeure mais aussi maire. Il est temps de se lever et de dire qu'on ne se laissera plus faire.
Donald Trump est tombé sur un os et Columbia, d'abord victime, a désormais signé, comme des centaines d'autres universités, une lettre ouverte pour dénoncer ses ingérences.
Un reportage de Loïc Lory, correspondant de France Inter à New York.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Et il est 5h46, l'heure de contacter notre invité déjà debout. Bonjour Thierry Sekinato.
Oui, bonjour à vous.
Producteur de fraises, tomates et kiwis dans le Lot-et-Garonne, pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout à cette heure-ci ?
Parce qu'on commence la journée tôt et de façon à débaucher tôt, tout simplement. Et toutes nos cueillettes de fraises notamment, puisqu'on commence par les cueillettes de fraises, c'est la pleine saison.
Voilà, c'est la saison en ce moment.
Ouais, c'est ça, doivent être cueillis aujourd'hui, expédiés en début d'après-midi et chez nos clients ce soir et puis à l'étalage demain matin.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemblent vos petits matins entre café et cueillette de fraises ?
Ouais, c'est ça, je commence à réfléchir à l'organisation de mes cueillettes de fraises par variété. Alors, il y a des gariguettes, des sifflorettes, des mariguettes, donc des magnums, des clairies, tout simplement. Donc, chaque jour et à chaque client, il y a une variété. Et on réfléchit au type de conditionnement que souhaitent nos clients. C'est de la barquette classique, la barquette carton, des barquettes lattes avec un pour des fruits label rouge avec un couvercle, des petits cartons 800 grammes. On réfléchit à ça.
Et vous travaillez dans un groupe coopératif, ça veut dire que vous êtes plusieurs producteurs à vendre sous la même marque.
Ouais, moi je crois à l'initiative individuelle, mais au sein d'un collectif.
Oui.
Le collectif est plus fort, et puis après, l'entreprise individuelle, chaque producteur gère un peu la production comme il le souhaite. Mais la puissance du collectif par rapport à nos clients, c'est quand même rassurant pour nous.
Voilà, c'est ça. À quoi ça sert finalement d'être dans un tel collectif ?
On a des clients, des petits clients, des petits négociants. On a des clients qui font du détail, de proximité, sur des marchés ou des petits grossistes, mais aussi des clients qui sont plus gros, qui sont des moyennes ou grandes surfaces. Et puis devant eux, il faut d'abord avoir une régularité d'apport, pouvoir leur assurer des débouchés réguliers. Et pour ça, le collectif et de se regrouper en termes de producteurs, c'est quand même plus rassurant.
Et avec vous, vous avez plusieurs salariés qui viennent d'endroits variés, on va dire.
Oui, moi, chez moi, il y a environ 10 nationalités, donc il faut que tout le monde travaille ensemble en respectant l'autre, les différences de l'autre et dans un cadre bienveillant. Quand on recrute nos saisonniers, c'est ce qu'on met en avant.
Alors, quand vous cueillez les fraises, vous m'avez parlé des différentes variétés. Il faut mesurer aussi la qualité. Alors, comment ça se fait, ça ?
Tous les matins, on prend le taux de sucre.
C'est sucré, c'est bon.
Alors, d'abord, les gens goûtent. Hein. Alors, parfois, après le café, quand on embauche à 7h moins le quart, tout le monde n'a pas envie de manger une fraise. Mais globalement, ça vient assez vite. Et puis, on a un petit instrument où on prend 4-5 fruits, c'est représentatif de la cueillette du jour. On les broie, on les passe, on passe une goutte sur un petit appareil qui nous donne le taux de sucre.
Et donc, c'est ce que je dis, quand c'est sucré, ça veut dire que c'est bon, en clair.
Oui, oui, mais on fait du label rouge ce matin. Si label rouge, l'exigence, elle est entre 7,5 et 8 degrés Brix. Si on est en dessous,
ça,
on
ne mettra
pas en label rouge. Mm. On appelle, ouais, j'appelle mon client, je lui dis, bah, écoute, aujourd'hui, pas de label rouge, on a d'autres choses à te proposer. En fait, c'est rare hein, quand même. Hein. On est toujours plus ou moins quand même dans le taux de sucre souhaité.
Et donc après les fraises, dans la journée, chronologiquement, c'est la tomate.
C'est ça. Moi, je suis producteur aussi de vieilles variétés de tomates. C'est des cœurs de bœuf, des allongés cœurs en ce moment. Donc là aussi, on y va avec plaisir. Mais il n'a pas fait chaud dans le sud-ouest sur les derniers jours. Par contre, aujourd'hui, on a un temps qui est plus chaud, 23-25 degrés annoncé chez nous. On sait que, j'étais en train d'y réfléchir tout à l'heure, on sait que temps orageux en fin de journée, avec des orages aussi potentiellement demain matin, on sait que chez nous, dans nos serres, il y a des pollinisateurs, ce sont des bourdons.
Voilà, j'allais vous dire, il y a un risque du métier quand même, vous pouvez vous faire piquer.
C'est ça, oui. On peut se faire piquer, même si on fait gaffe, hein, les zones de lâcher sont identifiées, mais les pollinisateurs, ils vont un peu partout dans la serre. Avec un temps orageux, comme ça s'annonce aujourd'hui, en fin d'après-midi, les insectes sont nerveux, on les voit tourner autour des ruches, et là, il y a un bouche à oreille bienveillant qui s'installe dans les équipes en disant attention, les bourdons aujourd'hui sont énervés, il faut faire attention à être prévenant. Mmh. Il y a des gens allergiques dans les équipes, dont je suis.
Oui.
Donc si ça arrive, on prend en charge les gens. J'appelle le 15. Je demande au médecin urgentiste s'il m'autorise à donner 80 mg de cortisone, puisque c'est un peu la procédure, en décrivant les symptômes. Et souvent, c'est le cas, ça évite d'intervenir rapidement. Pour la sécurité des gens.
Et c'est ça qu'il faut faire, voilà, pour la sécurité des gens. Vous avez donc un message pour les auditeurs, c'est Kinato, un message consommé local et de saison. Et il est bien passé. Merci beaucoup d'être venu sur France Inter ce matin. Vous êtes producteur de fraises, tomates et kiwis dans le Lot-et-Garonne. Merci d'avoir été notre invité déjà debout. Il est 5h51. Les réponses à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et ce matin, particulièrement, on peut compter sur eux. Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, 0 plus 0 égale la tête à Toto.
Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 9 ans et je voudrais savoir en chiffres romains comment se dessine le 0. Merci de me répondre, au revoir.
Et moi je te remercie pour ta question Mia, parce que tu sais quoi, avant que tu la poses, je ne m'étais jamais fait la remarque qu'effectivement il n'y a pas de 0 en chiffres romains. Alors, comment se dessine le 0 en chiffres romains? Étienne Gis, vous êtes mathématicien, est-ce que vous pouvez nous donner la réponse?
Eh bien Mia, je vais te surprendre et peut-être même te décevoir, parce qu'il n'y avait pas de 0 dans les chiffres romains.
Ah, c'est pour ça.
Et ça rendait les calculs bien compliqués pour nos pauvres amis romains dans l'Antiquité. Par exemple, regarde comment ils écrivaient 2025. Il fallait utiliser 2M pour représenter 2000, 2X pour 20 et un V pour 5, ce qui donne MMXXV. Pas de 0. Comme dans notre système, où nous utilisons un 2 pour les milliers, un 0 pour indiquer qu'il n'y a pas de centaines, et un autre 2 pour les dizaines et enfin un 5 pour les unités. Pourquoi c'est mieux avec nos chiffres? C'est grâce au 0 et à ce qu'on appelle la numération de position. Le même chiffre 2 peut représenter des choses différentes selon sa position. Ici, il représente à la fois des milliers et des dizaines. Mais les pauvres Romains n'avaient pas cette possibilité, ils devaient utiliser des lettres différentes. M pour les milliers, X pour les dizaines, et ça faisait trop de symboles. Ils ne pouvaient pas écrire de très grands nombres. Par exemple, ils n'avaient pas de lettres pour 1 million.
Ah, j'allais vous demander justement, 1 million, ils ne pouvaient pas l'écrire.
Non. Avec notre système et nos 10 chiffres, y compris le 0, nous pouvons écrire des nombres extrêmement grands. Et c'est grâce au 0, qui est bien plus qu'un simple rien. Par exemple, pour écrire 206, nous mettons 200, 0 dizaines, 6 unités. Sans le 0, on confondrait le 26 et le 206.
Et le 0, il est arrivé quand?
1100. À propos de 0. Connais-tu Marguerite Bramereau? Elle a écrit un livre intitulé « Rudiments d'arithmétique » en 1655. Elle avait seulement 12 ans.
Oh, 12 ans!
Dans l'introduction de son livre, elle se compare à un petit zéro. Elle explique que seul le zéro ne représente rien, mais qu'il est très important dans la numération de position. Elle dit, et elle a bien raison, qu'ajouter un zéro à la fin d'un nombre le multiplie par 10. Impressionnant, Marguerite. Voilà, Mia, c'est grâce au zéro qu'on oublie tout le temps que notre système numérique est si puissant.
La puissance du rien. À méditer. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux de Camille Crenier de retour après 20h.
France Inter. Le 5-6.
Comme tous les vendredis matins, on a le plaisir de déguster notre café philo avec Patricia Martin. Bonjour Patricia.
Bonjour Marion Lourd.
On dit souvent de notre société qu'elle subit une crise de la confiance, comme peut-être jamais auparavant dans l'histoire. Et pourtant Patricia, les traîtres ont toujours existé, semble-t-il.
Effectivement, Marion, ici la réputation de Judas est venue jusqu'à nous, c'est pas un hasard.
Oui.
Dans le domaine politique, la traîtrise est, on va dire, courante, mais elle est parfois plus subtile qu'on ne le croit. En 1955, Sacha Guitry réalise un film sur Napoléon. La trahison de Talleyrand y a forcément sa part, puisque ce dernier a fait voter la déchéance de l'empereur au Sénat. Extrait.
Le jour de notre première rencontre, vous m'avez fait le serment de ne jamais me trahir sans m'en avoir avisé. Vous en souvenez-vous ?
Je m'en souviens fort bien, sire.
Or, vous avez précisément négligé de le faire.
De vous trahir.
Non, de m'en aviser.
Je ne vous ai pas trahi, sire.
Trahant !
Pas encore. Mais je vous en avise. Et vous en avisant, je ne vous trahis pas.
Je ne sais pas ce qui me retient.
Ah, je n'en sais rien moi-même. Et je m'en étonne aussi. Singulière aventure, n'est-ce pas, que la nôtre ? Et curieux sentiments qui nous attachent l'un à l'autre. Je n'y vois pas ça d'amitié, je n'y vois pas de haine. Et ce serait de l'amour que je n'en serais pas surpris, car je vous aime et vous m'aimez.
Quel amour ! Dans ce cas précis, Patricia, on peut imaginer que c'est la raison d'État qui a prévalu.
En effet, mais s'il s'agit quand même d'une vraie trahison, hein, en tout cas sur le, oui, plan, sur le plan humain, dans un tout autre contexte, celui de la crise climatique, on peut entrer en résistance et adopter, disons, le courage de la transgression. Et c'est dans ce sens qu'il faut entendre les propos d'Aurélien Barreau, astrophysicien et philosophe.
Les résistants et les révolutionnaires sont toujours des traîtres. Des traîtres à l'inertie, des traîtres à l'évidence, des traîtres à ce qu'ils auraient dû être, suivant les attendus alentours. La trahison peut évidemment prendre le visage de l'infamie, quand elle relève d'une suraffirmation égotique et répressive. Elle constitue sans doute alors l'abjection suprême. Mais lorsqu'elle devient un geste de désenclavement, un coup fatal à l'ankylose des dominances entérinées, par mise en danger de celui qui les dénonce, elle incarne alors provocation pernicieuse et audacieuse, presque indolente dans son incongruité, le seul courage qui, je crois, mérite de se revendiquer tel.
L'image du traître courageux vue par Aurélien Barreau. Alors rendez-vous ce soir, Patricia, dans leur philo pour approfondir le sujet. Vous serez avec Vincent Cespedes qui publie un essai « La société de la trahison » chez Albin Michel. Et Vincent Aiguélé pour un essai historique sorti aux éditions passées composées intitulé « Traître, histoire de l'infamie ». À ce soir, 20h10, Patricia.
À ce soir, ma chère Marion.
France Inter présente Oli. O-L-I. Le premier podcast d'histoire pour enfants à partir de 5 ans. Et ce mois-ci...
Bonjour, je suis Adrien Borne et je vais vous raconter l'histoire de Socrate le pirate.
Une autre.
Bonjour, je suis Marine Leonardi et je vais vous raconter l'histoire de Hector le castor.
Oui.
Déjà plus d'une centaine d'histoires originales à télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
5h58.
La météo avec Préfonds, l'expertise retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis plus de 60 ans. Pour une retraite solide, même par temps incertain. Préfonds.fr.
Et qui voilà, c'est Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et vous arrivez avec des bonnes nouvelles, puisque oui, la journée est plutôt calme avec le retour du soleil.
Oui, alors le retour du soleil, ça sera surtout sur la moitié sud, après dissipation de quelques brouillards qui sont bien présents ce matin sur le quart sud-ouest. On aura aussi un petit peu de mistral dans la vallée du Rhône, avec un grand soleil toute la journée. Pour la moitié nord, en descendant jusqu'au Lyonnais, là ça sera quand même plus nuageux, surtout ce matin, avec encore quelques averses sur le nord-est. On en aura toujours quelques-unes sur ce secteur dans l'après-midi, mais elle faiblit s'affaibliront. Et puis surtout, les éclaircies feront leur retour. On aura juste un petit peu plus de nuages en fin de journée entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Ce sont les prémices de la nouvelle perturbation pluvieuse qui touchera l'Ouest demain, avec les premières averses ce soir sur le Finistère.
Et les températures sont en hausse.
Oui, en hausse partout. Une moyenne de 14 à 18 degrés sur la moitié nord et le centre est cet après-midi. 19 à 24 pour la moitié sud. Ce matin, un petit peu de fraîcheur entre la Normandie, le Massif central, 2 à 7 degrés. 8 à 12 pour les autres et pour les vigilants, c'est toujours orange pour les crues en Gironde et Charente-Maritime. Mais la décrue est amorcée. On n'attend pas de nouvelles averses aujourd'hui, donc c'est plutôt en bonne voie.
Et ben merci Céline Dacosta.